ça vaut le détour.
Bonjour, ici Maxime Despomerleau. Bienvenue à Ça vaut le détour, édition du 1er février 2016. On commence le mois en force. On a une émission avec encore plein de sujets qu'on va aborder, des invités à la fois au bout du fil et en studio. Ça vaut le détour, c'est votre boîte à outils pour contourner les obstacles du handicap. Nous sommes en direct tous les lundis, mardis et mercredis à midi. Je vous invite à nous rejoindre sur Twitter avec le mot-clic CVLD pour Ça vaut le détour et canal M, @ canal barre de soulignement M. Vous pouvez nous soumettre des sujets qui vous touchent ou commenter sur l'actualité. Vous avez peut-être vu passer le reportage de TVA hier sur un match spécial opposant d'anciens joueurs de l'équipe du Canadien de Montréal à l'équipe du Québec de hockey sur luge. C'était dans le cadre de la Coupe Best Buy qui avait lieu dimanche à Laval. On va parler plus en détail de la Coupe et du sport, en fait, du hockey luge avec Maxime Gagnon, entraîneur en chef de l'équipe Québec de hockey sur luge, et Josée Rochon, hockeyeuse sur luge. En première partie d'émission, on reçoit aussi Mélanie Deveau du Centre de formation Grandir Autrement qui offre des services aux enfants vivant avec des troubles neurodéveloppementaux ainsi qu'à leurs familles. On commence notre programme par une chronique de voyage inclusif puisque ma première invitée à Ça vaut le détour partage comme nous cette idée de la mobilité et refuse que le corps soit un obstacle à la possibilité de découvrir des contrées éloignées. Pour faciliter la planification de voyage, Édith Bernier lance cette semaine le manuel des routards Taille Plus, un guide unique au monde pour les voyageurs Taille Plus. On la joint au téléphone. Bonjour, Madame Bernier.
Bonjour, Maxime.
Merci de nous accorder cette entrevue ce matin. Donc, vous avez, vous êtes dans le travail, en fait, pour le lancement de votre manuel qui a lieu à Montréal demain, le 2 février.
Exactement, dès 18h à la boutique Sportive Plus, qui est au 4395 Saint-Denis.
Et donc, ce que vous vouliez faire avec ce manuel du routard Taille Plus, c'était en fait de partager vos expériences de voyageuse atypique. On peut l'appeler comme ça.
Donc, absolument.
Tout comme les personnes à mobilité réduite, les voyageurs Taille Plus sont des voyageurs atypiques. Donc, vous souhaitiez partager votre expérience et donner les bons coups et des conseils aux autres voyageurs.
Exactement, exactement. Parce que tout comme les personnes qui vivent une forme ou une autre de handicap, les personnes en surpoids qui ont des silhouettes un peu plus généreuses ont aussi plusieurs défis à relever quand ils se déplacent, que ce soit pour se rendre à destination ou une fois rendus, que ce soit au niveau de l'adaptation de l'équipement ou que ce soit au niveau simplement des réactions des gens aussi. Donc, ça peut être parfois assez tout un défi, en fait, de voyager en étant une personne non standard de taille, en fait.
Mm-hmm. Justement, il y a plusieurs standards de l'industrie qui sont pas adaptés. On parle de quand même plusieurs aspects, autant le transport, l'hébergement, parfois, qui peuvent causer problème. Mais tout d'abord, faut s'équiper pour voyager. Et surtout que le type de voyage que vous abordez, c'est plutôt le voyage à sac à dos. Donc, vraiment, le backpacking, en bon français. Et est-ce que c'est difficile de s'équiper pour le voyage quand on est taille plus?
En effet, ça peut être un peu compliqué. Les vêtements taille plus sont quand même moins difficiles à trouver qu'avant. Par contre, les vêtements qui ont des caractéristiques spécifiques, là, qui sont destinés au voyage, sont rarement disponibles là, au-delà des grandeurs dites « standards », entre guillemets. Et là, on parle que ce soit au Québec ou même dans le reste du Canada. Difficile à trouver quand c'est pas impossible. Dans certains cas, on peut quand même se rabattre sur des vêtements qui sont destinés au sport, en fait, qui peuvent être des alternatives intéressantes, comme ces vêtements-là sont conçus pour un style de vie actif, qui, dans le fond, se rapproche beaucoup du style de vie qu'on a lorsqu'on fait des voyages backpack. C'est souvent des voyages, donc, très actifs. quand je pense, si je pense à l'équipement, et là, je pense surtout au sac à dos de randonnée, le fameux backpack, ça, c'est souvent extrêmement mal adapté aux personnes qui ont des silhouettes plus généreuses. Je pense surtout au niveau de la ceinture, par exemple, ou des différentes courroies d'ajustement qui sont pas prêtes à recevoir des personnes dont les courbes sont un petit peu plus importantes que les personnes que standard, en fait, qui utilisent ces produits-là. Il y a aussi tout un autre aspect, en fait, qui est celui de l'accessibilité. Quand un produit est accessible, le prix, souvent, ne le sera pas. Si le prix est accessible, souvent, c'est le produit qui ne l'est pas, dans le sens que soit qu'on ne le trouve pas en magasin, il est seulement sur le web, il est à l'étranger, etc. Et parfois, on doit même justement explorer des options qui sont offertes dans d'autres pays. Et là, c'est pas tout le monde qui a envie et qui a aussi les moyens de se lancer dans tout un processus de essais, erreurs, on retourne le vêtement qu'on a acheté ou l'équipement pour une taille différente, tout ça. Particulièrement s'il y a des frais de retour ou des coûts de douane, par exemple, qui sont impliqués.
Oui, donc c'est vraiment, ça prend une autre dimension et c'est encore une fois de la recherche aussi pour trouver l'équipement qui va être adapté à nos besoins. À Canal M, ici, on a souvent parlé de voyages pour les personnes vivant avec une limitation fonctionnelle, entre autres avec Isabelle Ducharme de Kéroul. Et la chose qui revient toujours, c'est qu'il faut vraiment planifier dans les moindres détails. Il faut poser des questions beaucoup plus souvent, en fait. Il faut prévoir les coûts d'avance. Parlons des domaines un peu, justement, à lesquels il faut penser à poser des questions.
Bien, écoutez, le transport, hein, c'est que ce soit la taille des sièges, l'emplacement, les déplacements, l'hébergement, l'escalier, la présence d'ascenseurs. Surtout, les backpackers sont généralement fans de petites auberges, auberges de jeunesse, des hostels qu'on appelle communément. Donc, souvent, c'est rare qu'il va y avoir des ascenseurs dans ce genre d'endroit-là. On peut aussi parler, par exemple, des nouveaux moyens d'hébergement. On parle de Airbnb, on parle du couchsurfing. Des fois, ça se passe pas toujours comme on prévoit. Ma première expérience personnellement avec couchsurfing a assez mal fini. L'autre qui nous recevait, en fait, avait comme décidé de couper court à notre séjour. Et quand c'est venu le temps d'écrire une référence par rapport à l'hébergement qu'il nous avait offert, j'ai écrit honnêtement que notre séjour avait été raccourci par notre hôte et que ça nous avait un peu désorganisé. Et là, l'hôte a décidé de répondre que c'était parce que j'étais grosse, que j'étais paresseuse et que si j'étais pas si grosse, j'aurais pu m'arranger et je me serais débrouillée. Bon, vous voyez un peu la chose.
Donc, c'est assez dur tout de même à recevoir de la part d'un concept, le couchsurfing, qui est plutôt de recevoir, donc d'offrir un divan ou un espace pour accueillir des gens quelques jours.
C'est vraiment
dans le but de lutter, entre autres à l'international, des gens et de voyager à peu de frais.
Ben, le but est justement de permettre aux gens une meilleure accessibilité au voyage en sauvant justement des sous. Et ce genre de réponse-là était très en contraste avec l'esprit un peu peace and love, très respectueux qu'on s'attend en fait de gens qui participent à un projet comme Couchsurfing. Donc, ça a surpris beaucoup de gens. En fait, j'ai parlé en détail de cette expérience-là quand j'ai lancé mon blog en 2013 et ça fait quand même beaucoup réagir dans la communauté Taille Plus, je dois dire.
Oui, parce qu'en fait, c'est vraiment là, mis à part les certains obstacles architecturaux auxquels aussi les personnes à mobilité réduite peuvent rencontrer, il y a la question des préjugés, justement.
En effet.
Donc, on oublie que derrière la personne Taille Plus, il y a une personne.
Tout à fait.
Aussi, et dans le but de voyage aussi, c'est souvent de rencontrer l'autre, d'aller à la rencontre des gens. Donc, mis à part cette fâcheuse aventure de couchsurfing, est-ce que c'est fréquent que vous avez des attitudes déplaisantes ou au contraire, il y a beaucoup d'ouverture lorsque vous voyagez?
Ça dépend. Je suis venue à conclure, c'est que c'est rarement de la mauvaise foi. Par contre, des fois, il y a des manques de délicatesse. Je pense à une fois, par exemple, où j'étais en Inde dans un avion et les agents de bord étaient à chaque bout de l'appareil et se criaient d'un bout à l'autre de l'appareil devant tout. tous les passagers, que je ne pouvais pas m'asseoir dans le siège de la sortie d'urgence parce que j'avais demandé une rallonge de ceinture, mm-hmm. parce que la ceinture n'était pas assez longue pour ma taille. Donc, c'était assez désagréable comme moment de se faire finalement traiter une grosse devant un avion en entier. Je pense aussi, toujours en Inde, en fait, à une fois où il y a un petit garçon d'une dizaine d'années dans un magasin qui pointait le gras en dessous de mon bras et qui disait que j'étais une « strong good wife », une bonne épouse forte. Je pense pas qu'il voulait mal faire, mais c'est quand même assez choquant quand ça arrive. C'est des choses qui arrivent. Souvent, les gens vont s'imaginer qu'une personne qui est plus ronde et pas en forme, qu'elle est moins préparée, qu'elle est plus paresseuse, plus faible. Il n'y a pas beaucoup de monde qui peuvent s'imaginer qu'une de ma silhouette, par exemple, fait du jogging régulièrement et que j'ai un excellent cardio. Puis, je me suis rendu compte, en fait, que malheureusement, il y a beaucoup, justement, de préjugés vécus par les personnes en surpoids qui ressemblent aux préjugés vécus par les personnes qui vivent une forme ou une autre d'handicap, en fait.
Et justement, votre livre aborde aussi certains problèmes de santé qui peuvent survenir en voyage. Quelle forme prennent-ils?
Ça peut être autant des douleurs musculaires, physiques, parce que une journée passée à marcher, notamment, c'est plus exigeant sur nos pieds si on pèse plus lourd. Ça peut être des trucs qui sont liés, par exemple, au fait que notre corps tolère souvent moins bien la chaleur quand on est des personnes en surpoids. Donc, la transpiration peut causer des désagréments et peut rendre des moments un petit peu désagréables parfois en public si on transpire, si on est rouge. Il peut y avoir aussi donc différents problèmes, différentes blessures qu'on peut se faire. Et j'explore un peu dans le manuel, en fait, comment essayer de prévenir. Et idéalement, si malheureusement le cas échéant, on se blesse, comment essayer de contourner et de pallier à ces symptômes-là pour pouvoir continuer nos aventures jusqu'en fin de périple.
Finalement, ce manuel du routeur pour taille plus, c'est en fait ce qu'on y retrouve, ce sont des conseils, des récits d'expérience, mais c'est surtout dans le but d'encourager les gens finalement à ne pas se laisser, ne pas renoncer à l'aventure uniquement parce que peut-être notre corps ne convient pas aux standards.
Tout à fait. J'aimerais pouvoir aspirer à ce que le guide prépare les voyageurs à absolument tout, mais il va toujours y avoir des choses, en fait, qui vont être hors de notre contrôle, surtout lorsqu'on s'aventure en dehors des circuits touristiques traditionnels, ce qui est fréquent, en fait, chez les backpackers. Et ces choses-là, ça arrive à tout le monde, peu importe sa taille, en fait. Donc, je pense qu'il faut se concentrer sur les beaux moments, sur les nouvelles expériences qu'on vit en voyage, et puis pas trop s'attarder aux pépins, en fait, parce que la plupart du temps, ces pépins-là vont devenir un souvenir, une anecdote, parfois même drôle, à raconter, revenu à la maison, qui vont faire partie des beaux souvenirs du voyage, finalement.
Oui, et qui vont nous faire réfléchir. D'ailleurs, si on a des anecdotes à lui communiquer, on peut le faire sur votre blog de PS Backpacker.
Tout à fait.
Édith Bernier, vous êtes auteure de l'ouvrage « Manuel des routards taille plus ». Le lancement est demain à Montréal, le 2 février. On va mettre des liens sur la page de l'émission. Merci beaucoup pour cette entrevue.
Merci beaucoup.
Et bon voyage.
Merci.
Des fantômes se sont tus et la paix est revenue claire et franche. Alors la lumière est entrée par le bout de tes doigts. La lumière que je connaissais de toi. Oh Samy, Samy, je sais que les choses ont changé. Je vois que les lumières s'éteignent pour te laisser briller. Mais je ne comprends pas. J'ai fait ça pour toi. Mmh.
crois que les lumières s'éteignent pour te laisser briller, mais je ne comprends pas. Au Samir, Samir, prénoms et rangs défendus, j'ai décidé de rendre ce qui ne m'appartenait plus, et j'ai fait ça pour toi.
Samy Samy de Fanny Bloom, tiré de son album Pan. Fanny Bloom qui sera en spectacle à la Maison de la Culture Maisonneuve le 19 février. Alors, on continue notre programme de la journée. Je reçois en studio Mélanie Deveau du Centre de formation Grandir Autrement. Grandir Autrement offre des services aux enfants vivant avec des troubles neurodéveloppementaux ainsi qu'à leurs familles. Ils offrent aussi de la formation pour les professionnels. Donc, on parle de deux volets. Et j'aimerais tout d'abord, Madame Deveau, qu'on établisse clairement qu'est-ce que c'est un trouble neurodéveloppemental.
Bien, bonjour, Maxime. En fait, le trouble neurodéveloppemental, c'est tout ce qui rentre au niveau des défis d'apprentissage, troubles de comportement et langagier. Donc, difficulté de communication. On va rentrer là-dedans. Autisme, tous les troubles 10, dysphasie, dyspraxie. Même, on peut pousser jusqu'à la dyslexie parce que c'est un effet domino au niveau des troubles 10. La trisomie 21, la déficience intellectuelle, retard de langage et développement. Donc, tout ce qui a un impact là, neurologique sur tout le reste du développement.
Donc, c'est vraiment au niveau de la communication à ce moment-là que ça se situe.
Tout à fait.
Et le Centre de formation Grandir Autrement offre des services en éducation spécialisée. Sur quoi ça se décline?
Bien, en fait, on a un volet qui est psychomoteur. Le rôle de l'éducateur spécialisé est vraiment au niveau de l'application des services, des recommandations qui auraient été faites par un neuropsychologue, un orthophoniste, une ergothérapeute. Donc, on va favoriser l'intégration des apprentissages dans le vécu du quotidien des enfants. Ça me fait rire la petite phrase que je ressors à ce niveau-là. Hein, le vécu quotidien, ce sont des grands mots. Mm-hmm. J'avais lu une petite phrase dans une revue dernièrement qui disait « Arrêtons de vouloir juste passer du temps de qualité avec nos enfants, mais passons aussi du temps de quantité. » Parce qu'on est des modèles, autant quand on enseigne, que ce soit par conditionnement ou de l'enseignement fortuit dans le quotidien, que quand on est juste un modèle, je suis arrêtée à rien faire, je me régule, je m'occupe tout seul, je lis un livre, comment j'occupe mon temps? Mm-hmm. Donc, tant de quantité plutôt que tant de qualité. C'est ce que le service d'éducation spécialisée souhaite offrir.
C'est intéressant comme approche. Et justement, les enfants, les familles avec qui vous faites le plus de travail, ils ont quel âge, ces enfants-là?
Présentement, la moyenne des enfants, ou le range que je pourrais dire, se situe entre 3 et 8 ans. C'est la majorité de notre clientèle. Par contre, c'est une clientèle qui évolue. Donc, on développe plusieurs services pour nos pré-ados et ados. Et un volet à venir au cours de l'année, développement loisirs et intégration au travail pour les plus grands. Donc, on souhaite suivre la clientèle tout en continuant de développer pour la communauté.
Puis, quand ils arrivent chez vous, justement, on parle d'enfants de 3 ans, donc en bas âge. Souvent, ça va suivre un diagnostic qui va avoir été posé. Comment ça se passe, l'évaluation chez vous, la prise en charge, le développement du programme pour les enfants et les parents? Comment ça se passe?
Bien, tout d'abord, les enfants n'arrivent pas tous avec un diagnostic. Ce que nous, on cherche à favoriser, c'est au-delà du diagnostic, les interventions. Parce qu'il y a plusieurs interventions qui peuvent être très pertinentes pour soutenir les familles avant d'aller chercher un diagnostic ou encore lorsqu'ils sont en attente dans les services publics, ça peut prendre jusqu'à un an et demi mm-hmm. pour recevoir les évaluations de base. Donc, lorsque l'enfant arrive, il peut rentrer les appels par les familles. Je pourrais avoir la garderie qui demande un soutien à l'intégration au quotidien. J'ai des écoles qui nous demandent de nous impliquer. On a aussi des associations communautaires et privées qui font affaire avec nous. Donc, l'enfant va arriver dans nos services. On va réutiliser les recommandations des professionnels qui ont émis les diagnostics ou les premières hypothèses. On va faire une évaluation développementale aussi pour toucher toutes les sphères du développement, tant au niveau langagier, cognitif, moteur. Et on va mettre en place un plan d'intervention qui va toucher toutes ces sphères-là, justement pour retourner vers le vécu au quotidien.
Puis justement, sur votre site web, vous parlez de co-développement, de couronne de partenariat et de réseau de deuxième génération. Qu'est-ce que ça signifie? Quelle est la philosophie derrière le Centre de formation Grandir Autrement?
Donc, deuxième génération, à la base, c'est qu'on souhaitait que notre établissement privé fasse un développement à contre-courant. On ne voulait pas être un privé habituel, on voulait vraiment travailler directement dans la communauté. Et on a créé une couronne de partenaires qui sont autant sur l'île de Montréal, sur la rive sud, sur la rive nord, afin de pouvoir recommander à nos clients les bonnes adresses. Donc, j'ai un client qui entre, il n'y a pas eu de diagnostic encore, je réalise que l'enfant a des grands besoins au niveau langagier. Mm-hmm. Je vais rediriger la famille vers un de nos partenaires et il va avoir accès plus rapidement au service. Pourquoi plus rapidement? C'est pas qu'on passe devant les listes d'attente. C'est vraiment qu'en tant que partenaire, on va se réserver des plages pour justement permettre à l'enfant de graviter pour avoir tous les professionnels nécessaires pour répondre à ses besoins.
Donc, des fois, ça inclut plus qu'un professionnel. Ça peut être une gamme de professionnels
qu'on va inclure. Tout à fait. On a plusieurs établissements privés, autant au niveau du diagnostic auprès d'un neuropsychologue. On a des orthophonistes, des ergothérapeutes. Dernièrement aussi, des personnes qui sont spécialisées au niveau de la massothérapie pour les enfants à besoins particuliers. Donc, pour nous, chaque porte, chaque partenaire est une porte qui va permettre à l'enfant de s'ouvrir pour pouvoir recevoir les interventions. Parce que c'est bien beau, les interventions, mais en même temps, il faut être disponible à l'apprentissage. Donc, ces portes-là nous permettent d'accéder.
Puis, justement, dans le fond, vous proposez une alternative qui peut permettre, entre des visites chez un spécialiste, d'agir dans le quotidien des familles, vraiment, et de peut-être réduire les coûts en espaçant les visites chez le spécialiste. Est-ce que c'est un objectif aussi que vous avez?
Oui, c'est le principal objectif, de diminuer les coûts, d'arriver avec des plans budgétaires aussi, que les familles puissent planifier leur investissement. Donc, pour qu'on soit au quotidien, vraiment optimiser les apprentissages. Parce que l'orthophonie, l'ergothérapie, c'est très bien. Il y a plusieurs stratégies qui sont très intéressantes pour faire évoluer les enfants. Et quand on est, nous, présents au quotidien, on peut aider les familles qui ont aussi un premier travail qui est leur gagne-pain, ce qui permet de payer les services. Et nous, on va accéder là, pour stimuler les apprentissages.
Justement, il y a différents... vous parlez d'un plan budgétaire. On peut voir aussi sur le site web qu'il y a différents forfaits, si on veut, qui vont de 6 heures par semaine à même 20 heures par semaine de présence avec l'enfant et la famille. Donc, c'est vraiment... malléable, en fait. Ça va vraiment essayer de rejoindre le plus possible la situation de l'enfant et même regarder, évoluer, en fait, et donc changer au fur et à mesure selon les besoins qui surviennent.
Tout à fait. Puis ça peut être des plages qui sont variables aussi. Une famille pourrait arriver et nous dire l'enfant il a besoin d'aide pour l'intégration à la garderie. Sur un forfait de 10 heures, par exemple, on pourrait offrir un 6 heures à la garderie. Mm-hmm. Et on pourrait être présent en fin de journée pour aider le parent aussi à... Bon, mais il faut que je prépare mon souper. J'ai un petit enfant autiste qui court autour de moi. Il y a des besoins sensoriels. Comment je fais pour l'occuper? À un moment donné, j'ai des choses à planifier. Donc, on peut être dans le quotidien aussi de cette façon-là.
Puis, parlez-moi du volet pour les professionnels.
Pour les professionnels, on offre des services de consultation, donc d'échange, un peu comme un co-développement. Donc, une vision différente, un point de vue différent sur ce qui se passe. On a le volet conférence et formation aussi, qu'on a développé sous un tout autre modèle. Ils sont souvent sur une journée. Demi-journée, journée, conférence de soirée pour les parents, mais pour les professionnels, c'est vraiment de la formation continue. Au lieu d'avoir un cours de psychologie du comportement, par exemple, quelqu'un pourrait demander une formation pour sa garderie qui serait axée sur les troubles de comportement. Donc, on pourrait parler d'agressivité spécifiquement, sur les enjeux sociaux face aux enfants. Donc, on va vraiment créer une formation spécifiquement pour le besoin, au lieu d'aller vraiment dresser trop large.
Puis donc, ça va vraiment s'intégrer dans le milieu de travail pour que, finalement, le milieu de vie de l'enfant devienne plus inclusif.
Tout à fait. Donc, toutes nos formations, ils ont une base qui est prémontée. Et à chaque achat, l'organisme ou le professionnel reçoit une ou deux rencontres pour vraiment la remonter sur mesure, pour que ça corresponde spécifiquement à ses besoins, et ce, sans frais supplémentaires.
C'est très bon à savoir. En terminant, comment est-ce qu'on fait appel à vos services? Est-ce que il y a un long délai de traitement si on appelle, par exemple? Vous desservez le territoire du Grand Montréal,
oui.
La Rive-Nord et la Rive-Sud. Pour le moment, c'est on s'en maintient là. Est-ce qu'il y a des objectifs de peut-être étendre les services?
Au niveau des services d'intervention directe, donc directement auprès de l'enfant, pour le moment, on s'en tient à ce territoire-là. Par contre, au niveau formatif, on est présent dans tout le Québec et dans tout l'international francophone aussi.
Puis justement, est-ce qu'il y a un long délai si on appelle, si une famille fait appel à vos services?
Pas du tout. Donc, en dedans de 24-48 heures, il y aura un retour d'appel et le temps de monter le programme spécifique demandé par la famille. En dedans de 2 semaines, les services sont déjà mis en place.
Donc, on met ça dans notre boîte à outils, le Centre de formation Grandir Autrement. Merci beaucoup, Mélanie Devaux, d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci, Maxime. Bonne journée.
De retour à Ça vaut le détour avec Maxime Despomerleau.
Je rappelle le mot-clé CVLD pour interagir avec notre équipe des médias sociaux sur Twitter et évidemment la page Facebook de Canal M où vous pouvez nous soumettre des sujets. Alors, on continue notre programme. La deuxième partie de l'émission se trouve à être un spécial « Découvrons un sport ». Aujourd'hui, j'ai au bout de la ligne M. Maxime Gagnon qui est directeur chez le Défi sportif Altergo, mais aussi entraîneur en chef de l'équipe Québec de hockey sur luge. Bonjour, M. Gagnon.
Bonjour, merci de me recevoir.
Mais tout d'abord, j'aimerais qu'on revienne sur la Coupe Best Buy qui avait lieu dimanche à Laval. Ça semblait être un match spécial. Il y a eu aussi des anciens joueurs du Canadien qui ont testé le hockey sur luge. Comment ça s'est passé, cette journée-là?
Alors, c'est un événement qui était organisé par Hockey Québec, qui est la fédération qui sanctionne le hockey sur luge. Nous avons invité quelques joueurs à faire un essai sur la glace extérieure dans le cadre de la Coupe Best Buy au Centre de la nature à Laval. Et nous avions la chance de nous mesurer à des joueurs du Canadien, tels Richard Sivigny, Gilbert Delorme. Il y avait André Roy aussi, l'ancien de Lightning de Tampa Bay, qui a gagné la Coupe Stanley en 2004, et se prenait contre des joueurs de hockey sur luge de l'équipe du Québec. Et on avait amené Sophie Forêt aussi, la gardienne de but de l'équipe féminine québécoise, là, pour montrer que ce sport-là est aussi offert aux filles. Et je crois que leur expérience a été très enrichissante, tant du côté sportif que du côté physique, parce qu'ils n'ont pas trouvé ça facile, nos vieux Canadiens, mais ils ont bien apprécié l'expérience. Et il y avait beaucoup de public, donc pour la sensibilisation du sport, c'était un plus pour nous.
Justement, on va d'abord commencer par décrire le sport, le hockey luge. Quelles sont les principales différences entre le hockey régulier, qu'on connaît bien, et le hockey sur luge?
La seule différence, c'est que il y en a deux. Une, c'est qu'au lieu d'avoir des patins, vous avez une luge sur laquelle il y a deux lames. Souvent, les gens perçoivent, il y a juste une lame. Non, les lames, il doit toujours y en avoir deux. Des fois, c'est juste une lame entre les deux seulement qui les sépare. Selon l'handicap, la largeur des lames va varier. Et au lieu d'avoir un bâton, il y en a deux pour pouvoir se propulser et lancer des deux mains. Mais sinon, c'est la même rondelle, la même grandeur de patinoire, les mêmes buts, les mêmes règlements, le même hors-jeu, et ainsi de suite. C'est de cette façon-là que ça fonctionne.
Puis, vous êtes donc entraîneur en chef de l'équipe Québec. Comment est-ce que vous êtes arrivé à ce poste? Comment est-ce que vous avez connu ce sport d'abord?
Écoutez, si on remonte environ il y a 6 ans en arrière, il y avait une dizaine de joueurs au Québec seulement. Il y avait un petit groupe qui était à Laval, un petit groupe qui jouait à Chamédé, et l'autre était à Repentigny. Et les deux se parlaient pas, les deux ne communiquaient pas, et à un moment donné, on nous a demandé, dans le cadre de mon métier de tous les jours, du directeur du défi sportif, d'inclure ce sport-là dans la programmation. J'ai dit, c'est bien beau, mais avant de connaître ça, j'aimerais ça un peu en savoir plus, voir ce que c'est. Alors, j'ai fait rencontrer les deux équipes, de là, ils se sont rencontrés, puis par la suite, ils m'ont amené en Ontario, où là, il y a près de 400 joueurs qui sont inscrits régulièrement dans des ligues régulières de hockey sur luge. Et j'ai dit, ben pourquoi au Québec, il n'y a pas personne qui s'occupe de ce sport-là, qui est notre sport national? Et j'ai mis le petit doigt là-dedans, bénévolement, Et de fil en aiguille, ben maintenant, on est rendu avec 7 régions au Québec qui ont un club, qui peuvent recevoir des athlètes. On a aussi des matchs locaux, des matchs interrégionaux. On va dans des tournois en Ontario. Et on est rendu à près de 150 joueurs maintenant. Et le tout est sanctionné par Hockey Québec.
Qu'est-ce qui explique quand même la différence de nombre de joueurs qu'on retrouve au Québec versus en Ontario?
Je vous dirais que présentement, c'est jeune encore comme sport. Ça fait juste 6 ans. On n'a malheureusement pas toujours la chance d'avoir un programme de communication qui est génial. C'est des bénévoles, on s'implique du mieux qu'on peut. La fédération nous aide du mieux qu'on peut. C'est sûr que des démonstrations comme hier, des émissions comme aujourd'hui nous aident à faire connaître ce sport-là. Et de bouche à oreille, le sport commence à se faire connaître et commence à se faire découvrir dans le milieu. Puis on a de plus en plus de jeunes aussi. C'est ce qui aide. Donc, en ayant plus de jeunes, on sait que notre sport va rester en santé plus longtemps. Juste à Montréal, on parle d'environ 24 jeunes présents chaque samedi matin qui viennent pratiquer le hockey sur luge. Il y a le hockey sur luge féminin qu'on a débuté par hasard l'an passé. On avait une petite demande. Et on est passé de 12 à plus de 24 filles aussi dans ce milieu-là. Donc, on est bien contents. C'est le bouche-à-oreille. Puis la structure est là pour accueillir les gens maintenant. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a parti les 7 régions. Puis maintenant, dans 7 régions du Québec, que ce soit au Saguenay-Lac-Saint-Jean, que ce soit à Québec, à Laval, Montréal, la Rive-Sud, en Abitibi, il y a un groupe qui est là aussi, et en Estrie.
Donc, quand même, ça couvre pas mal le Québec. Comment est-ce qu'on commence à jouer au hockey luge? D'abord, on n'est pas obligé nécessairement d'être en situation de handicap. Il faut le dire, c'est ouvert aussi à tous.
C'est ouvert à tous. Il y a 3 sports auxquels, jusqu'à un niveau provincial, le sport est ouvert. C'est le basketball en fauteuil roulant, le goalball pour les personnes aveugles et le hockey luge. Ce sont les sports où les personnes non handicapées sont admises pour créer une masse, pour créer un bassin. De là, on tous les types de handicaps sont acceptés, que ce soit quelqu'un qui soit paralysé d'un côté, on peut mettre un pusher, qu'on appelle, c'est une barre qui s'incline, qui s'insère à l'arrière de la luge, et de là, ben, le jeune ou la personne plus âgée peut pousser à l'aide d'un bras, il y a un adulte en arrière de lui qui peut le guider, et à ce moment-là, la personne peut avancer, puis jouer avec ses collègues aussi. Donc, c'est un sport qui est peu coûteux aussi. Un équipement peut varier, une luge en tant que telle peut varier entre 700$ et 1000$ pour une luge de haut niveau. Donc, c'est quand même peu dispendieux là, avec l'équipement de hockey régulier. Mais par la suite, les saisons sont très, très, très accessibles aussi au niveau des prix.
Donc, on veille quand même à une certaine accessibilité financière aussi pour le sport.
Accessibilité financière et accessibilité au niveau des temps de pratique aussi. Souvent, on va prendre en considération le transport adapté. Chez les jeunes, on va commencer à 9h30 le matin, donner la chance aux parents de préparer le jeune. Même si on entend souvent mon jeune depuis 6h le matin qui a hâte d'aller à l'aréna pour jouer depuis le début de la saison, on va demander à son parent quand est-ce qu'on part. Bien, on prend ça en considération aussi. Le mercredi soir, il y a des pratiques à Montréal. C'est à partir de 20h. Donc, ça donne le temps à la personne de s'organiser s'il n'y a pas de transport, que ce soit avec le transport adapté, des choses comme ça. Donc, on prend en considération vraiment les besoins de la clientèle.
Justement, on évoque beaucoup qu'il y a de plus en plus de jeunes qui s'inscrivent à ce sport. Est-ce qu'il y a des recrues ou des joueurs à surveiller? C'est qui le Piqué Souban de la Ligue?
Le Piqué Souban? Écoutez, on a maintenant, ce qui est bien, c'est que depuis 6 ans que le programme est commencé, on a des athlètes qui ont été sélectionnés sur l'équipe nationale. On a Mathieu Trudeau, qui est quelqu'un de la Rive-Sud, qui s'entraîne à Montréal, qui a été sélectionné en septembre dernier parmi les top 20 au Canada et a maintenant un brevet par Sport Canada et payé pour s'entraîner pour jouer au hockey luge. On a Dominique Larocque à Québec aussi qui est là. Et dans ceux qui s'en viennent, on a des athlètes de Québec. Antoine Lehoux qui s'en vient, il y a Aurélien Buquet de Montréal. On en a quelques-uns comme ça là, qui s'en viennent. Et dans le cadre de l'événement Défi sportif cette année, on va pouvoir revoir nos futures vedettes de demain parce qu'on va avoir une série entre le Canada et les États-Unis, les équipes de développement. Alors, les prochains joueurs qui vont être sur les équipes nationales vont être d'autres Défi sportifs dans le cadre d'un tournoi d'une fin de semaine complète.
Est-ce qu'il y a d'autres compétitions importantes à venir?
Écoutez, à Montréal, il n'y en a pas d'autres d'ici ce temps-là. C'est sûr qu'il y a des tournois qui vont avoir lieu à Ottawa. Éventuellement, on aimerait tenir à Montréal un tournoi où on peut accueillir des différents calibres. Mais pour l'instant, on s'efforce à développer le sport. On va être aux Jeux du Québec en 2017 à Alma. On va être parmi les sports reconnus dans la programmation régulière. Donc, on est bien content de ça aussi.
Monsieur Gagnon, je vais vous demander de mettre votre chapeau du directeur du défi sportif Altergo pour nous parler brièvement de l'organisme. Donc, j'ai cru comprendre que ça avait été un apport important pour le hockey luge, que vous avez aidé à amener une structure, mais c'est beaucoup plus vaste que ça.
Ben, le défi sportif, à la base, c'est 5000 athlètes qui viennent année après année au défi sportif. C'est un record qu'on a atteint l'an dernier, que ce soit des jeunes de la relève ou de l'élite. Ce qu'on rassemble ces gens-là sur 6 sites de compétition, sur 7 jours de compétition aussi. Souvent, ça peut être une compétition d'une journée. Lorsqu'on parle de l'élite, c'est des compétitions qui durent 4 jours ou une fin de semaine. Des fois, ça peut aller à une semaine complète, tout dépendant de la compétition. Cet événement-là rassemble des athlètes de tout type de déficience. La particularité, c'est que chacun a sa propre compétition. Alors, entre autres, cette année, dans les nouveautés, vous allez avoir la natation pour les jeunes qui ont une déficience intellectuelle et les jeunes qui ont une déficience motrice vont être dans la même piscine. Chacun va avoir sa vague, chacun va avoir sa catégorie, mais tous vont être en même temps à la piscine.
Mm-hmm.
Donc, c'est la particularité du défi sportif, c'est d'inclure ces gens-là ensemble, de voir que ce sont tous des athlètes à chacun leur niveau. Et c'est la beauté de cet événement-là.
En terminant, si on veut avoir plus d'informations sur le Hockey Luge, dirige?
On peut aller sur le site de hockeyluge.ca. Il y a le site aussi de Hockey Québec. Et sinon, par courriel, hockeyluge@hotmail.com. Vous envoyez un petit courriel, puis ça va nous faire plaisir de vous répondre rapidement et vous donner l'information. Si on peut aller faire des démonstrations aussi dans des régions, le week-end prochain, on est en Beauce. Il y a un club là-bas qui aimerait se partir, donc il y a à peu près une quinzaine de personnes qui vont nous recevoir ce week-end pour faire une démonstration, pour éventuellement peut-être partir un club. C'est de cette façon-là qu'on fonctionne.
Super. Maxime Gagnon, vous êtes directeur chez Défi Sportif Altergo et aussi entraîneur en chef de l'équipe Québec de hockey sur luge. Merci beaucoup.
Merci de m'avoir reçu, bien aimable.
Je te souhaite de déposer ta...
Les harmonies des sœurs Boulay dans nos oreilles avec Jus de boussole tiré de leur album 4488 de l'amour. Alors, on continue sur cette lancée de hockey-luge. J'accueille en studio Josée Rochon, qui est hockeyeuse sur luge. Bonjour, Josée.
Bonjour, merci de me recevoir.
Ça nous fait plaisir. Donc, Josée, tu as en fait une condition physique qui altère ta marche, ce qui rend certainement le patinage plus difficile. Donc toi, au lieu d'aller vers le hockey traditionnel, tu as décidé d'aller vers le hockey luge.
Oui, effectivement, ben c'est ça. Comme tu disais, j'ai la paralysie cérébrale, donc tout ce qui est niveau d'équilibre et tout, la performance au niveau du sport régulier était difficile. Donc après des années à avoir essayé plusieurs sports réguliers, j'ai décidé de me tourner là, vers le sport adapté. J'ai débuté en septembre dernier.
Donc, c'est tout nouveau.
Tout récent.
Puis, ça se passe bien.
Oui, ça va bien. C'est sûr que c'est une adaptation. Maxime Gagnon le disait tout à l'heure, c'est difficile. Donc, la première fois qu'on embarque dans une luge, c'est vraiment un feeling nouveau. Et là, de s'adapter non seulement avec les bâtons, de piquer, d'essayer d'aller vite, d'essayer de garder l'équilibre. Et là, à un moment donné, il y a la rondelle qui entre en ligne de compte aussi. Donc, c'est très technique, mais ça va bien. J'ai persévéré puis je suis contente de l'avoir fait.
Est-ce que tu étais déjà une fan de hockey avant?
J'étais une fan, j'ai suivi mon frère dans les arénas pendant 20 ans, mais j'avais jamais pratiqué moi-même le hockey là, et le patin, car c'était difficile pour moi.
Quels autres sports tu faisais avant de t'adonner au hockey-luge?
Mais en fait, avant de découvrir le sport adapté et le hockey-luge, j'avais essayé, comme je disais, plutôt plusieurs trucs dans le réseau régulier. Par contre, malheureusement, étant donné que c'était beaucoup, ça me mettait beaucoup en situation d'échec, ben après l'adolescence, là, j'avais vraiment quasi abandonné totalement la pratique du sport. Donc, vraiment, là, le hockey-luge, c'est vraiment pour ramener le sport dans ma vie. Et ben, c'est un succès. Là, je suis à la recherche de d'autres sports à pratiquer.
Puis, justement, le hockey-luge, tu l'indiquais assez bien. Le défi, bon, tout le défi, en fait, de comprendre son appareil aussi, mm-hmm. de bien le contrôler. Et là, en plus, arrive l'objectif, finalement, du hockey, de mettre la rondelle dans le filet.
Ouais.
Comment ça se passe pour toi, une pratique ou un match de hockey sur luge? C'est quoi ta préparation? Comment est-ce que tu t'entraînes la semaine aussi? Est-ce qu'on a besoin de faire des étirements? Comment ça se passe?
Bien, dans le fond, on a une pratique organisée par semaine. Donc, à tous les samedis matin, on se réunit pendant 1h30 avec les autres filles qui sont dans la région de Montréal et on pratique sur glace. Par contre, effectivement, que bon, c'est toujours bon de faire du hors-glace également. Donc, pour moi, avec ma condition, les étirements, c'est un gros enjeu parce que, bon, dans ma luge, j'étais inconfortable, j'avais des maux de jambes, étant donné que mes jambes étaient placées dans une position qui était en constant étirement. Donc, il a fallu aussi que j'intègre l'entraînement hors-glace dans ma vie, qui était aussi une nouveauté. Mais quand on a un objectif au bout de la ligne, c'est toujours plus motivant. Donc, c'est pour les pratiques, c'est ça. Dans le fond, pour les matchs, c'est sûr qu'étant donné que, bon, on est un petit bassin de filles encore au Québec, les matchs se font plus rares parce que, bon, on doit aller en Ontario ou les filles de l'Ontario doivent venir ici pour qu'on puisse là, pratiquer puis faire des matchs réguliers. Mais quand ça arrive, on est toujours vraiment excités. On se réunit les filles dans la chambre. On a un esprit d'équipe qui est vraiment agréable malgré le fait que l'équipe de filles existe seulement depuis octobre. Et on met de la musique, on met ça à fond. Puis ce qui est le fun, c'est qu'il y a des vétérans au sein de l'équipe, mais on a aussi quelques recrues. Puis on a la chance d'avoir les filles. On a 4 filles de l'équipe du Québec qui sont également sur l'équipe nationale. Donc, on a la chance de pouvoir aussi là, profiter de leurs conseils. Puis chaque fois qu'on est réunis tous ensemble, c'est toujours un plaisir.
Puis justement, il y a peu de filles encore, donc c'est pour ça que l'équipe vient de démarrer. Mm-hmm. Comment tu te sens justement comme fille de faire ce sport-là?
Bien, pour moi, c'est vraiment une fierté. C'est vraiment une fierté de débuter puis de pouvoir promouvoir ce sport-là puis d'essayer d'encourager d'autres filles à le pratiquer avec nous. On est chanceux, par exemple, on doit dire que le hockey luge au Québec, c'est un petit peu une famille, puis on est tissé serré, donc avec les garçons aussi qui le pratiquent, parfois, on fait des pratiques tous ensemble, puis on peut bénéficier aussi de leurs conseils, là, donc c'est le fun.
Puis, justement, toi, tu as la paralysie cérébrale. Oui. Les autres filles de l'équipe, est-ce que tu peux nous dire un peu les conditions? Est-ce qu'il y a d'autres filles comme toi qui ont la paralysie cérébrale dans ton équipe ou c'est très, très diversifié?
C'est assez diversifié. Il y a Sophie Forêt, qui est notre gardienne de but, qui a également la paralysie cérébrale. On a des filles qui sont non handicapées aussi. Et on a des filles qui ont des amputations. On a des filles qui sont paraplégiques. Donc, c'est assez varié.
C'est assez varié. Tout le monde y trouve son compte, finalement.
Ouais.
Qu'est-ce qui fait, tu penses, que ce sport, le hockey luge, a plus d'avantages que d'autres sports?
Comme Maxime Gardien le disait précédemment, c'est une accessibilité qui est là. C'est vraiment, l'équipement est assez facile à se procurer, il y a beaucoup de temps de glace. Puis là, en ayant une équipe féminine aussi, c'est vraiment un incitatif. Là, pour ma part, ça a été vraiment la chose qui a fait en sorte que j'ai décidé de commencer à pratiquer le hockey luge, de pouvoir être avec d'autres filles, plus, mettons, de mon calibre. Puis je dirais, c'est sûr qu'il ne faut pas l'oublier, là, au Québec, le hockey, c'est notre sport national. Donc, à la base, c'est attrayant là, d'avoir envie de le pratiquer, peu importe notre condition physique puis peu importe nos limitations.
Oui, c'est ça. En fait, on voit que la glace, qui est normalement perçue comme un obstacle, finalement, devient le terrain de jeu.
Oui, c'est vraiment un bon point parce que pour les personnes qui ont une limitation fonctionnelle, la glace est toujours... c'est un obstacle tout le temps. Puis là, cette année, j'avais hâte pour la première fois de ma vie à l'hiver pour pouvoir m'amuser aussi là, sur la glace.
Est-ce qu'un sport se féminise? Est-ce qu'il y a des changements dans les règlements par rapport au sport qui est pratiqué par les hommes?
C'est drôle que tu me poses la question parce qu'il y a deux semaines, on est allé en tournoi de hockey à London, en Ontario, et on a joué contre des équipes masculines. Donc, on était la seule équipe uniquement féminine. Dans les autres équipes, il y avait une fille, deux filles. On en a côtoyé quelques-unes lors de la fin de semaine. Puis ce qu'on a appris, c'est que c'est un peu plus physique hein, quand même quand on joue avec les garçons. On a resté surprise là, à notre premier match de se faire pousser un petit peu. Mais finalement, on a embarqué. Je pense qu'on y a pris plaisir. Là. Je voyais les filles, on tassait les garçons, on les poussait un petit peu. Puis je voyais les gros sourires dans les visages de mes coéquipières. Donc pour le reste, il n'y a pas vraiment de changement par rapport là, au hockey luge masculin.
Est-ce qu'il y a des plaquages aussi? On va-tu se plaquer sa bande?
On commence tranquillement. on pensait que les garçons auraient une certaine gêne à nous plaquer, mais finalement, ils nous ont vus comme une menace parce que oui, on se faisait pousser puis on se faisait plaquer dans la bande aussi. Là.
Ah bon, c'est bien, au moins que ça soit pas un préjugé qui persiste sur la glace, finalement. Josée Rochon, tu travailles aussi pour Altergo.
Oui.
J'aimerais qu'on aborde brièvement qu'est-ce que tu fais au sein de l'organisme.
Et moi, je suis coordonnatrice aux événements spéciaux, donc tous les événements qu'on organise dans l'année, que ce soit notre assemblée annuelle, nos événements bénéfices, donc je suis impliquée là-dedans. Au niveau du défi sportif Altergo aussi, donc tout ce qui est l'art d'animation du défi sportif au complexe sportif Claude Robillard, les gens peuvent venir essayer justement les différents sports adaptés. Donc on a une zone d'essai sportif. Donc c'est comme ça aussi là, que j'ai connu les différents sports adaptés, puis j'ai décidé que à force d'organiser ces événements-là, moi aussi je voulais y participer.
Puis est-ce qu'on va pouvoir essayer le hockey luge à l'occasion du prochain défi sportif?
Certainement. Dans la zone d'essai sportif, c'est sur roulette en fait, donc les gens peuvent avoir quand même le feeling. Et il y aura également des essais sur glace lors du défi sportif, donc vous pouvez le visiter notre site internet défisportif.com pour toutes ces informations-là. Et également, s'il y en a qui suite à ces chroniques-là, auraient hâte et voudraient l'essayer avant le défi sportif, le 13 février, donc pas samedi qui vient, l'autre, à 11h, on offre des essais de hockey luge à l'aréna Howie Morenz à Montréal. Donc, si jamais ça intéresse des gens, vous pouvez nous écrire au hockeyluge@hotmail.com.
Donc, c'est vraiment ouvert à tous. Là. On le rappelle, on n'a pas nécessairement besoin d'être en situation de handicap pour essayer le sport.
Effectivement. Par contre, c'est sur inscription pour ce qui est du 13 février. Donc, n'hésitez pas à nous écrire.
Puis, justement, l'objectif aussi d'Altergo, c'est d'inclure le sport, en fait, dans l'idée d'avoir des saines habitudes de vie. De se maintenir en santé, de développer ses aptitudes et aussi, en fait, d'aller chercher un certain accomplissement, une estime de soi. Est-ce que le hockey luge pour toi, d'intégrer ça dans ta vie, d'intégrer ça dans ta routine, qu'est-ce que ça t'apporte?
Mais sans aucun doute, effectivement, tu parlais d'accomplissement, ben c'est vraiment une grande partie de ce que ça m'apporte. Comme je le disais, étant donné que j'avais vécu beaucoup d'échecs au niveau du sport, c'est pas un domaine qui m'amenait une confiance en moi, une estime de moi. Par contre, là, au niveau du hockey luge, c'est vraiment quelque chose qui... J'en ressors gagnante, j'en ressors grandie. Puis je peux voir que moi aussi, ben, physiquement, je peux accomplir des belles choses, des grandes choses. Donc, ça me motive à continuer. Puis c'est venu un petit peu sur le tard dans ma vie, mais ça va me pousser à adopter des saines habitudes de vie au quotidien, sans aucun doute.
Puis tu mentionnais tantôt que tu avais suivi ton frère dans les arénas pendant longtemps. Est-ce qu'il a fait l'expérience du hockey luge?
Pas encore, mais il est venu regarder nos matchs à Montréal en décembre. Il était vraiment impressionné, puis il va être là en février pour l'essayer à mes côtés. Donc j'ai bien hâte de vivre ça avec lui.
Et ça peut devenir aussi une activité familiale.
Oui, certainement.
Donc, en terminant, en fait, j'aimerais que tu nous parles brièvement des autres disciplines aussi qui vont être à l'honneur dans le prochain défi sportif.
Oui, bien, on a d'autres sports, en fait, pour les personnes qui ont des déficiences motrices, donc que ce soit basketball en fauteuil roulant, on a le volleyball assis aussi qui va être là, qui fait son retour cette année. Au niveau des sports pour personnes qui ont une déficience visuelle, on a le goalball. Et en fait, il y a 13 sports et disciplines, donc je vous invite vraiment à visiter le site Internet pour être au courant là, de tout ce qui va se passer. C'est une belle année qui s'annonce, donc défisportif.com.
Puis, c'est quelle date?
C'est du 25 avril au 1er mai.
Au centre Claude Robillard.
Principalement, et sur 7 autres sites de compétition à Montréal et sur la Rive-Sud.
Donc, ça rassemble des athlètes de partout, en fait, au Québec, même de l'extérieur du Québec.
Oui, de l'extérieur du Québec et du Canada. Donc, on attend plus de 20 pays, notamment la compétition de Boccia cette année qui s'annonce assez grandiose. Donc, vraiment, ça va être à ne pas manquer.
Parfait. Merci beaucoup d'avoir partagé ta passion naissante pour le hockey luge. Ça nous fait plaisir de te recevoir aujourd'hui. José Rochon, tu es hockeyeuse sur luge. Tu travailles aussi pour l'organisme Altergo, qui est le mandataire du défi sportif qu'on connaît tous. C'était ce qui met fin à notre première chronique Altergo. La chronique va revenir une fois par mois. Je remercie tous mes invités qui se sont prêtés au jeu aujourd'hui. Maxime Gagnon aussi, qui est l'entraîneur de l'équipe Québec pour le hockey luge. Aussi, Mélanie Deveau du centre de formation Grandir Autrement. Et on avait commencé l'émission avec Édith Bernier, auteure et blogueuse Voyage Taille Plus. Je remercie aussi mon équipe technique qui est derrière moi. Alors, à la recherche, Christiane Campagna, à la mise en onde, Jean-Sébastien Laliberté. Et malheureusement, Kevin Breton nous a quittés pour les médias sociaux. Nous pourrons le retrouver chez Ami Télé à compter des prochaines semaines. C'était Maxime Despomerleau pour Ça vaut le détour. À bientôt.